Un grand merci, Maïké. Et j'aurais plusieurs réflexions. D'abord, cette idée que quelque chose qui nous paraît naturel aujourd'hui, mais... l'accouchement, c'est toujours dans la douleur, paraît-il. Mmh. Donc, effectivement, c'est que le fait qu'un concept qui nous paraît aller de soi met beaucoup de temps. Et moi, j'aurais plein d'exemples en mathématiques, mais vraiment plein, et dans d'autres domaines. Donc, toujours se méfier des choses qui nous paraissent aller de soi. Et c'est très, très intéressant de voir que ça ne l'est pas du tout. Et que ces concepts naissent aussi, pas d'eux-mêmes comme ça, mais dans un cadre théorique qui fait qu'ils peuvent ou ils ne peuvent pas. Et je crois qu'effectivement, tu l'as dit à la fin, maladie héréditaire, il y a déjà maladie qu'il faut définir. Et effectivement, la définition de la maladie, c'est aussi quelque chose qui ne va pas de soi. Ça, c'était ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est... C'est ce qui m'est venu immédiatement dès ta première citation à propos de ce pouvoir des rois de pouvoir guérir, où l'auteur dit, mettons de côté l'idée que ce soit un miracle et essayons de trouver une cause naturelle. Et ça, je crois que c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai dit moi aussi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est typique de cette période-là, cette idée qu'on veut un discours rationnel sur les choses. Et donc, ça va vraiment, là, je suis ravie que tu aies commencé par là, parce que ça va vraiment à l'encontre de cette idée, comme je disais ce matin, répandue d'un Moyen-Âge obscurantiste et dominé par la superstition, etc. Non, ce n'est pas vrai. Au Moyen-Âge, on tente de développer un discours rationnel, et il y a, et même si les traités des théologiens, effectivement, sont très très importants dans la réflexion des médecins ou des philosophes, parce que d'abord, c'est les mêmes, c'est les mêmes gens, ils sont passés par la faculté des arts avant de devenir théologiens, donc c'est normal qu'il y ait ce dialogue. Donc même si les théologiens sont présents, il y a une revendication des penseurs, des maîtres SA, d'une réflexion purement rationnelle d'explication du monde, donc en physique, en médecine, etc. Donc, Dieu à part, faisons comme si Dieu n'intervenait pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça me paraît très, 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 très intéressant et important à souligner. Et j'avais une troisième chose à dire et j'ai oublié, mais essentiellement, si ça me revient, je vous le dirai, mais c'était essentiellement ça que je... Donc, merci encore. Troisième, ça m'est revenu. J'ai trouvé aussi très très intéressant que tu insistes, peut-être qu'on n'a pas assez, j'ai pas assez insisté aussi ce matin là-dessus, sur le fait que aussi la pensée médiévale part d'une réflexion très importante sur les mots. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, c'est pas une science expérimentale. Alors bien sûr, on regarde le monde. Bien sûr, on s'interroge de savoir pourquoi le cadavre saigne, parce qu'on a vu des cadavres qui saignent. Mais là, la base, c'est la sémantique, c'est le travail sur les mots, sur la signification des mots. Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir de ce travail sur les mots, on peut développer une théorie et des choses qui nous disent des choses sur la nature. Donc, Et du coup, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la plupart de ces gens écrivent en latin, et que donc c'est aussi sur les langues qu'il faut travailler, sur le latin, et sur le latin par rapport à l'arabe. Il y a tout un travail de... pour ça que, quand on est médiéviste, c'est vraiment... on travaille sur les mots et sur les termes qu'on doit faire, pas seulement sur les concepts, pas sûrement, mais sur la manière dont on dit les choses. Voilà. Ça me paraissait important.
Merci pour cet exposé qui était extrêmement intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur la précision de la terminologie pour les plus jeunes ou les littéraires, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ce qu'on appelle aujourd'hui une maladie congénitale, c'est donc effectivement une maladie qui est transmise à l'enfant in utero. Et je peux vous donner comme exemple, par exemple, la toxoplasmose que la mère va attraper pendant la grossesse avec un enfant qui va être éventuellement atteint de toxoplasmose à la naissance. Les maladies héréditaires, ce sont des maladies qui sont liées à la transmission des gènes et donc à l'ADN. C'est le cas, par exemple, de l'hémophilie. Et donc, vous connaissez tous l'histoire de l'hémophilie dans les cours d'Europe avec la transmission par la reine Victoria jusqu'au tsar de Russie. Donc ça, c'était une des maladies héréditaires. pour pas qu'il y ait de confusion, la lèpre, c'est bien une maladie contagieuse et bactérienne. Donc la goutte, c'est une maladie métabolique au même titre que le diabète. La lèpre, c'est une maladie du type de la tuberculose, c'est la même famille de bactéries. Voilà ce que je voulais préciser.
Oui, mais justement, mais on n'a pas besoin de gènes. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de gènes pour penser ces distinctions.
Ah, pas du tout. C'est l'idée du concept, elle est bien plus intéressante que ce qu'on met dans le concept lui-même. La preuve, c'est que sans pathogénie exacte, on arrivait à faire les différences. Et là encore, c'est l'idée du concept qui est bien plus intéressante que ce qu'on peut définir.
Ce qui n'est pas possible vraiment de penser dans le modèle médiéval, c'est la toxoplasmose ou le sida, par exemple. Comment oui. on se transmet. Ça, c'est pas possible. Ça, ils ne peuvent pas penser la différence entre le sida et
la peste. Et dernière précision, la peste, ça existe toujours. Il y a 2000 cas par an.
Comment ?
2000 cas par an déclarés à l'OMS. C'était juste une parenthèse.
Oui, pour enchaîner sur l'importance des mots, moi j'aurais une petite question sur le mot transmission. Est-ce qu'il y a un verbe pour dire, vous avez parlé de héréditaire, quelle est sa signification ? Et peut-être quelle est la vision étymologique qu'on en a ? Isidore de Séville, qu'est-ce qu'il dit sur RS, héréditis ? Je me souviens plus, je sais que j'ai lu une fois consulté la chose, c'est toujours assez enseignant, disons, de passer par Isidore de Séville, même si ça peut être décalé, mais ce décalage, ce pas de côté, il touche tout souvent dans le mille, quoi, parce qu'il participe aussi d'un imaginaire qui vient nourrir aussi peut-être le discours rationalisant. Donc est-ce qu'il y a un mot pour dire la transmission, transmettre un verbe
Là, il faudrait vraiment que je revienne sur mes textes pour m'en souvenir. Passer des parents aux enfants. Donc il faudrait que je regarde comment Dino Del Garbo dit qui passe des parents aux enfants.
Là, le passage, le transfert, la translatio, si vous voulez, vous me voyez venir, les littéraires ont compris déjà quel était le l'implicite de la question, quoi.
Oui. Transmettre, je pense que c'est ça qui vient.
Attends, Joël.
Il faudrait vraiment que je revienne sur.
C'était un des points. En fait, c'était une des interrogations que j'avais moi aussi, parce que ce qui est très intéressant, c'est cet adjectif hereditarius, qui soit utilisé dans un contexte qui est plutôt arabo-latin, si je comprends bien, et pas du tout gréco-latin. Et deuxièmement, il y a l'autre aspect aussi, moi, qui m'a beaucoup intéressée, parce que là aussi, il me semble que du point de vue de la naissance du concept, c'est extrêmement intéressant, c'est le fait que l'origine est une analogie juridique. Ce qui veut dire que c'est quand même très nettement lié à la question de la filiation dans la conception juridique. Et il me semble que ça, c'est tout à fait intéressant, parce que je n'ai pas l'impression que ce type de concept soit si fort que ça, dans les autres théories médicales. Et là, ça apparaît très fortement, quoi. Cette notion, finalement, d'héritage, mais d'un héritage qui est un héritage pathologique.
Non ? Ah non, c'est absolument... C'est très isolé, même.
Oui, voilà, c'est ça.
Ce transfert et en plus, ça reste dans le domaine de la pathologie. Donc, par exemple, dans tous les débats sur les ressemblances et les dissemblances, donc qui est vraiment au cœur de la théorie de la génération, ils sont capables de développer ces théories sans utiliser le terme d'hérédité.
Voilà. Alors justement, c'était l'une des questions aussi que je me posais, c'était à propos des tares, tares physiques. Est-ce que la notion de tares physiques est traitée de la même manière que la maladie dite héréditaire dans ces textes-là, ou est-ce qu'on n'en parle pas du tout, en fait ? Ou est-ce que c'est simplement la question de la ressemblance qui est évoquée pour la tare ? Parce que je pensais en particulier à un texte que connaît bien aussi Pierre-Marie, qui est tout simplement, qu'on connaît bien dans le Poitou, puisque c'est Mélusine et ses fils, qui ont tous des tares, ce qui signifie qu'il y a une nature qui n'est pas une nature pure de la mère, disons qu'on le présente comme ça, en tout cas, dans les textes littéraires. Et donc, je m'interrogeais pour savoir si, dans les textes médicaux, il y avait des allusions à ce genre de choses, par exemple.
Il y a chez Aristote, il y a l'idée je pense que c'est dans l'atavisme, donc où il parle d'une, pardon, il parle d'une tache sur l'épaule du grand-père qui réapparaît chez le petit-fils. Mais c'est pas quelque chose. Donc là, on est plus dans le, c'est pas vraiment une maladie, c'est plutôt une marque qui est visible et qui signifie aussi l'appartenance. Donc je pense que c'est toute une famille qui a cette même. Donc là, on a cette idée-là, mais c'est pas du tout quelque chose que les médecins reprennent. Donc à part la, non, c'est plutôt les boiteux qui engendrent les boiteux, mais il n'y a pas la notion de tare physique. Je pense que la tare physique est plus justement liée toutes ces théories sur la génération. Donc la tare physique, c'est pas tellement quelque chose qui se transmet, mais quelque chose qui se produit dans l'enfant par le péché des parents ou par un mauvais comportement. Donc, ce qui est central, donc, si on veut parler d'une sorte d'eugénisme médiéval, moi je dirais que ce n'est pas un eugénisme qui est fondé sur l'hérédité, mais sur cette notion de génération qui est centrale. Donc c'est toujours sur le style de vie, c'est toujours un comportement sexuel, surtout autre, qui a enclenché cet art. Mais ce n'est pas quelque chose qui se transmet de génération en génération.
À propos du pouvoir de guérison des rois de France, est-ce qu'il y aurait d'autres exemples ? Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples sur d'autres personnes qui ne soient pas nobles ? Est-ce que voilà. Est-ce que...
Les saints.
Oui, oui, bien sûr, mais bon.
Non, il y a les rois de France, il y a le roi d'Angleterre, mais c'est lié au sacre. Donc c'est le sacre, donc c'est un don divin à la dynastie de France et d'Angleterre qui leur a conféré ce pouvoir. Mais ensuite, le pouvoir thaumaturgique, c'est un pouvoir des saints. Mais en même temps, l'explication qui est donnée par nos maîtres et sœurs permettrait de penser ce que vous proposez. Parce que, donc ils dévalorisent ce don en disant c'est pas le sacre, mais... Et en disant, ça peut être dû à une constellation un peu étrange au moment de la naissance, ça serait ouvert à tout le monde, ce don. Donc cette naturalisation, ça passe aussi par une dévalorisation et une démocratisation, en quelque sorte, de ce don.
Merci.
J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de rapport avec l'observation. Mais est-ce que ces traités comportent parfois des allusions à des anecdotes ou à des observations ?
Non, pas à des anecdotes, mais en bon scolastique, ils font référence à l'auctoritas, à la ratio et à l'expérience. Mais l'expérience, malheureusement, ça ne va pas très loin. C'est juste dire, on voit effectivement que les boiteux engendrent les boiteux, les goutteux engendrent les goutteux. Non, donc,
ça ne va pas plus loin.
Ça ne va pas plus loin que ça. Non, il n'y a pas d'exemple concret.
On est dans les temps pour la conclusion. Hein. Oh, ma pauvre Sabine, je te fais travailler, je te vois plus fois par an.
Non, bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est de remercier encore les conférencières d'avoir accepté de venir, remercier Anne de nous avoir proposé de... Voilà, et donc j'espère que... voilà, le CSM. Donc voilà, bah j'espère qu'on va avoir fait un peu passer notre message et notre passion pour le Moyen-Âge aussi. Je crois que vous avez compris qu'on était passionnés par cette période. Voilà, foisonnante et vivante et libre. Merci.